Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Béréa, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chères chouquettes du monde entier, vous êtes-vous déjà senti vieillir ? Avez-vous éprouvé la pesanteur de votre corps, sa défaillance ? Avez-vous ressenti l'encombrement de cette entité à la fois familière et étrangère, capable de nous procurer les plus grandes joies et les plus grandes peines, la jouissance autant que la douleur irradiante? Son corps, mon invité du jour l'a éprouvé maintes fois. À vélo d'abord, de ses 20 ans à ses 29 ans, décennie tour à tour joyeuse et amère, puis par la lecture et l'écriture. Coureur, à rallonge-bond, a chuté à plusieurs reprises, se relevant toujours, le corps déformé mais point vaincu, avant de chuter plus gravement il y a 5 ans. Cette chute, son envers et son endroit, il la raconte en cette rentrée littéraire avec la publication d'Un corps d'homme aux éditions Premier Parallèle. Arlambon est de ces auteurs discrets, pour qui les qualificatifs d'écrivain et de philosophe peuvent s'avérer pesants. Pourtant, l'ancien coureur cycliste, venu tardivement à l'écriture, compose depuis maintenant 10 ans et la publication du versant féroce de la joie, une œuvre singulière, propice à interroger le corps et son étrangeté, ses failles et ses joies. Dans Un corps d'homme, il raconte l'histoire d'une nuit, de ce moment où, la cinquantaine advenue, le corps devient une nouvelle altérité. Qu'est-ce que n'être pas encore vraiment vieux, mais plus tout à fait jeune? Comment faire un horizon désirable? Il sera question de tout cela avec lui aujourd'hui, mais aussi de lecture et d'écriture.
Le temps des chouquettes. Une émission présentée par Lucas Béréa.
Bonjour, Olivier Rallonge-bond.
Bonjour.
Bienvenue dans Le temps des chouquettes et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de vous recevoir pour cette première émission de la saison.
C'est moi qui vous remercie, comme on dit.
Alors, je l'ai évoqué en introduction, vous avez été coureur cycliste durant une dizaine d'années et l'écriture est arrivée plus tardivement dans votre vie. Vous entamez des études de philosophie à 35 ans, les terminant après votre 40e anniversaire. Vous devenez ensuite journaliste sportif avant que ne soit publié en 2014 votre premier livre. 4 ouvrages ont suivi depuis, tous publiés aux éditions Premier Parallèle, ainsi que de nombreux articles pour la presse. En vous lisant Olivier Rallonge-bond, j'ai senti assez nettement que vous croyez peu à la naissance d'une vocation ou d'un désir qui serait consécutif à un événement, tragique ou heureux d'ailleurs. Alors à défaut d'une chute comme celle que vous racontez dans votre dernier livre, comment s'est faite pour vous la mue du coureur cycliste à l'écrivain ?
La mue, écoutez, elle s'est faite assez naturellement, assez spontanément, même si ça n'a pas été complètement agréable, et c'était en tout cas pas... On parlait de vocation à l'instant, moi je ne me suis jamais senti de vocation très, très précise, j'ai toujours vécu ou eu le sentiment de vivre un peu le mal à ma place, le cul entre deux chaises, et c'était déjà le cas quand j'étais coureur. Alors j'ai été coureur cycliste, il faut le dire vite, au sens où j'ai pas été un champion, j'étais pas vraiment professionnel, j'étais de ces coureurs qui vivotent de leurs courses et qui vivent de primes un peu comme des artistes de rue. Bon, puis c'est une histoire qui commence à remonter, hein, parce qu'elle s'est achevée en 96, donc ça, j'ose pas faire le compte. Voilà, vocation, donc non, c'était déjà pas tout à fait le cas. Et la mue s'est faite d'elle-même dans le sens où cette première peau de coureur cycliste, je l'ai épuisée jusqu'à ce qu'elle perde le semblant de sens qu'elle pouvait avoir. C'est-à-dire que voilà, je vivotais, je n'ai pas devenu un champion, ce n'était pas une grande réussite, mais j'étais un peu pris dans cette vie-là, à laquelle j'étais quand même malgré tout très, très attaché, mais avec laquelle j'entretenais des rapports compliqués. J'étais un peu cyclothymique, j'étais deux mois euphorique et 2 mois déprimé, je ne savais pas très bien ce que je faisais là en réalité. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, la philo m'a permis d'interroger ou de formuler après coup, de donner un sens peut-être après coup à cette expérience étrange. Voilà, donc la première mue, elle s'est faite comme ça. J'ai d'abord dû travailler quelques années, j'ai commencé à travailler quelques années pour gagner ma vie, n'est-ce pas, pour me nourrir. Avant d'avoir l'occasion d'étudier la philo. Ouais.
Pourquoi la philo plutôt que la littérature ?
Alors, oui, pour deux raisons. Enfin, il y a deux motifs à ça. D'abord, déjà la philo, j'avais eu du goût pour ça à l'époque où j'étais lycéen. J'ai un prof qui m'encourageait à faire plus de philo que de sport. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Voilà. Et ensuite, quand j'ai eu 35 ans, il y a eu une rencontre aussi. J'ai rencontré un prof de philo qui s'appelle Frédéric Gros. Et qui avait, dans le cadre de l'université Paris 12, monté une formation, un diplôme universitaire à destination principalement, si je ne dis pas de bêtises, des psychologues et des travailleurs sociaux. Et je me suis greffé sur cette histoire. J'ai obtenu, grâce au fonds GESIF, le financement. Et donc l'enseignement, je crois que ça représentait 600 heures de philo sur 2 ans. J'ai obtenu ce DU qui était valable à Paris 12, qui m'a ensuite permis de m'inscrire en maîtrise, c'était la maîtrise à l'époque, et puis en master ensuite. Voilà, donc cette MU, elle est arrivée, quoi, mais c'est évidemment pas, c'est pas un plan de carrière.
L'entrée en littérature, on va dire officielle, elle se fait pour vous en 2014 avec la publication du Versant féroce de la joie, roman qui racontait la vie de Frank Vandenbroucke, dit VDB, ancien coureur de légende, disparu dans des circonstances tragiques. Alors on y trouve déjà dans ce roman votre volonté de restituer par les mots ce qui advient d'un corps durant l'effort physique et ce qui rend cet effort possible. 3 ans plus tard, c'est un texte plus autobiographique, vous publiez avec Le coureur et son ombre. Et là, il y a une nouvelle muse, c'est celle du passage de la troisième personne du versant au jeu autobiographique du coureur et son ombre. Et je voulais savoir pourquoi, à vos yeux, il y avait eu ce changement-là de point de vue.
Peut-être que c'était une facilité au début. L'histoire de Frank Vandenbroucke s'est aussi présentée à moi. Décidément, je ne décide pas grand-chose. Hein. Mais elle me permettait sans doute de traiter à travers un récit qui était déjà le récit de sa vie, qui était déjà romanesque à souhait. J'ai pas eu besoin d'inventer grand chose. Elle me permettait, je disais, sans doute de poser des questions qui m'ont travaillé moi personnellement, et notamment celle d'un rapport un peu pour le moins ambivalent à son corps. Voilà, quand on est à la recherche de performance, comme on sait, il faut une assaise, il faut être capable de se faire un peu violence d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, je me suis souvent amusé à dire depuis lors que dans le mot lui-même, il y a une violence assez évidente. Performer, ça veut dire percer sa forme. Enfin, c'est moi, je l'entends beaucoup comme ça. Et donc, l'histoire de VDB m'a permis d'aborder cette question du versant un peu mortifère du rapport à son corps qu'on a quand on est sportif de haut niveau, comme on dit, et peut-être plus particulièrement cycliste, et peut-être encore plus particulièrement cycliste dans ces années 90, qui étaient quand même assez sombre du point de vue du dopage. Voilà, et je le dis pas du tout comme quelqu'un qui voudrait en tirer une morale très lumineuse, mais comme quelqu'un qui était assez fasciné par cette morbidité ambiante. Voilà, Non, c'est pas si clair que ça, justement, parce que ça me rendait malheureux aussi. Mais j'étais assez scotché à cette tendance à l'excès, voilà. L'éthique du sportif, l'éthique du cycliste, c'était d'aller le plus loin possible, de se faire le plus mal possible et de se dépasser, comme on dit. Mais c'est pas du tout anodin de se dépasser. Se dépasser, c'est se mettre en danger, de toute façon.
Quand vous écrivez ensuite Le coureur et son ombre, que vous passez à ce jeu et que vous allez beaucoup plus dans votre rapport personnel au vélo, qu'est-ce que vous avez retrouvé en vous que VDB ne vous avait pas permis d'explorer dans le premier livre?
Je ne sais pas si j'ai trouvé grand-chose de plus. C'est sans doute une autre démarche. Bon, peut-être que j'avais besoin d'en passer par une histoire extérieure comme ça pour m'autoriser à dire « je ne sais pas très bien ». Il y a peut-être quelque chose aussi d'un peu plus théorique ou d'un peu plus explicite dans « Le coureur et son ombre ». J'avais l'impression de n'avoir pas encore formulé assez clairement dans le récit.
Alors il y a une chose aussi, c'est que écrire sur le vélo, ça implique de raconter des existences flamboyantes comme celle de VDB, des choses intimes, le rapport au corps, on l'a dit. Toute une chose qui est rattachée au vélo et qui est bien loin du seul folklore, c'est l'imaginaire populaire. Le vélo est peut-être un des derniers sports véritablement populaires et lié à un imaginaire prolétaire. Et moi, en vous lisant, j'ai eu le sentiment que écrire sur le vélo, ça impliquait aussi d'en passer par cet imaginaire-là, d'en passer par ces vies-là, des existences plus anonymes qui passent sous les radars médiatiques. Dans un entretien que vous aviez fait avec Romain Bardet, vous aviez donné au Monde en 2016, vous disiez notamment ceci: Je fais ma première course dans une zone industrielle, mais j'ai été ému par tout un lyrisme, une ambiance, y compris par une forme de poésie triste, peut-être consubstantielle à l'effort. Je venais d'un milieu très ouvrier où la pénibilité, le fait d'en chier pour mériter, était très important. Je me suis donc demandé, en vous lisant Olivier Rallambon, si écrire sur le vélo sans parler de lutte des classes et sans raconter une part du monde ouvrier était possible.
Bah, le vélo tel que je l'ai connu moi, non, sans doute, ce n'était pas possible. Bon, d'abord pour des raisons personnelles, je crois que je disais que le vélo m'a autant fait souffrir qu'il m'a apporté de joie et de plaisir. Je crois qu'une part de ma motivation pour ce sport-là, qui en effet est assez, qui est musculaire, qui est pénible, qui parle de force de travail, vraiment, c'était sans doute de ne pas trahir l'imaginaire de la famille, de ma famille paternelle notamment, et de mon père, qui a retrouvé, quand moi j'ai débuté à 13 ans, qui m'emmenait aux courses de minimes et de cadets. Je crois que mon père retrouvait au bord des routes un peu de son milieu d'origine, d'une langue populaire aussi. Voilà, donc je crois qu'il y avait un attachement très fort à cette, sans doute, et pas très conscient, hein, encore que, à cette volonté de ne pas trahir. Voilà, cela étant, le vélo est toujours un sport populaire, néanmoins... les milieux populaires ont changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'ouvriers, il n'y a plus vraiment de paysans. Et le peloton que je continue un peu à fréquenter, de l'extérieur, mais me semble avoir changé sociologiquement aussi. C'est devenu un sport des classes moyennes, le vélo, peut-être déjà parce que c'est très cher, le matériel est cher. On voit des gamins courir avec des vélos à entre 5 et 10 000 euros, et puis parce qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture pour aller aux courses, et puis parce que d'une façon générale aussi, peut-être on va un peu plus systématiquement poursuivre ses études qu'auparavant. Il y a beaucoup de diplômés maintenant dans les courses cyclistes, c'était pas le cas. Mais est-ce qu'on peut parler de vélo sans parler de lutte des classes ? Je ne sais pas, c'est l'entre-soi de la lutte des classes, peut-être.
Alors vous le dites,
on ne se bat pas contre son patron. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut regretter, d'ailleurs, que les coureurs cyclistes manifestent si peu de conscience politique.
Alors, lutte des classes, effort physique, question de corps, Olivier Rallambon. Ce corps, il en est aussi question dans votre dernier ouvrage, mais cette fois, le vélo s'éloigne, éloigne aussi le pur effort physique. Un corps d'homme est avant tout un livre sur le vieillissement, le moment où, à la cinquantaine advenue, le corps devient une nouvelle altérité, un livre né d'une chute qui vous marque plus durablement que les autres. On en parle en détail dans quelques minutes, mais je cède d'abord la place à un autre amoureux des mots, le grand Alabashung, que vous citez à Rallambon en exergue de votre livre. J'ai des doutes sur la notion de longévité, chante Bashung, c'est le secret des banquises.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rangs, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez eu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. « J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des looks, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? Déchiffrer les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises. Couper court à l'appel de la brise et livrer le secret des banquises. Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?
Le temps des chouquettes. Une émission présentée par Lucas Beria.
Vous êtes toujours dans le temps des chouquettes, toujours en compagnie d'Olivier Aralambon, dont le nouveau livre Un corps d'homme vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. On a parlé durant cette première partie de vélo, d'efforts physiques, de rapport à l'écriture. J'ai des doutes sur la notion de longévité, chante Bachung dans ce morceau, Olivier Aralambon. Avant de vous lancer dans l'écriture de ce dernier livre, en aviez-vous des doutes, justement, vous-même, quant à votre capacité à l'écrire ?
Oh là, oui. Oui. Enfin, c'est même pas... C'est comme avec le corps, c'est l'ambiguïté entre être et avoir. Je suis tout doute. Oui, bien sûr. En fait, des doutes, c'est... Jusqu'à maintenant, j'ai assez peu écrit sur la base d'un plan où j'ai toujours une idée un peu vague de l'endroit où je veux aller et de la forme que ça prendra. Donc oui, des doutes, j'en ai, mais bon, il faut faire avec, c'est bien.
La question, je vous la pose parce que avec ce livre, vous sortez un petit peu de la traditionnelle narration du vélo et de l'effort physique. C'est un livre qui s'ouvre sur une chute dont vous êtes victime, on l'a dit, l'année de vos 52 ans. Alors vous partagez la route, le temps d'une sortie avec le coureur Romain Bardet, que l'on reconnaîtra sous les traits du personnage de François-Xavier Berzingue. Une chute violente qui vous fracture le fémur. En tant qu'ancien coureur, vous avez chuté de nombreuses fois. Le corps, on l'imagine abîmé, mais vous relevant toujours. Cette chute survenue à 52 ans, elle marque en revanche véritablement un point de bascule, le point de départ d'une longue méditation sur la déséquilibre du corps. Mais cette idée de bascule, vous allez la contrarier dès les premières pages. Vous écrivez « Quel était mon âge, juste avant que je me casse la gueule, et après, de quelle chair se vêtir, quel geste produire pour rester accordé au monde ?» Je décidais crânement, quoique non sans difficulté, de chercher la révélation sous l'accident, la conversion sous la dégradation. Cette chute, Olivier Aralambon, en quoi elle vous a révélé des choses inédites par rapport à toutes celles qui ont pu précéder ?
Elle est sans doute pas très différente de celles qui ont précédé, sauf que je me suis cassé un gros os cette fois-ci. Après, bon, il y a eu les clavicules, le coude, les choses comme ça, des choses très, très, très banales. Et un fémur, c'est aussi assez banal. Mais ce qui avait, quoique douloureux, je le dis en passant, ce qui avait changé, c'est en effet surtout mon âge. Et je me suis... comment dire, ça n'a pas été une révélation, c'est pas une chute qui aurait été une révélation soudaine qui m'aurait mis en face d'une vérité aveuglante. Comme ça, c'est au fil de la récupération. Enfin, j'ai fait de la rééducation, j'ai eu d'autres petits soucis de santé derrière qui se sont enchaînés. Et au fil des semaines et des mois, comme ça, j'ai été confronté au constat de mon âge. et pas seulement parce que je récupère moins vite ou parce que je fais moins de muscles, en tout cas moins rapidement qu'autrefois. Mais aussi parce que j'ai pris conscience de quelque chose. Je me suis dit peut-être quelque chose comme il était temps de non pas d'arrêter de faire le con, parce que faire du sport à tout âge c'est bien et j'espère continuer à en faire le plus longtemps possible parce que c'est un plaisir et puis parce que jusqu'à preuve du contraire on a besoin d'un corps en bonne santé même pour lire des livres et pour en écrire. Mais parce que je me suis rendu compte que ce corps ou ce statut de coureur cycliste, c'était presque... Je me souviens, quand j'étais lycéen, on a fait un peu de sociologie et évidemment, on est passé par Bourdieu. Et Bourdieu utilisait une expression qui m'a beaucoup fasciné. Il parlait des stratégies de présentation de soi. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je continue de me présenter comme un coureur cycliste, quoi. Et je me suis dit qu'il était temps que ça change, ça. Pourquoi exactement, je ne sais pas. C'est pas indigne d'être coureur cycliste, mais parce que j'ai envie d'être autrement, autre chose, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais je me suis dit que là, je dois être quelque chose qu'il faut assumer et pas seulement fuir en essayant de garder un corps jeune. Je me pose la question, je ne sais pas toujours très bien ce que ça veut dire, assumer son âge, mais je pense qu'il y a moyen de s'y adapter et d'être heureux de son âge. Je l'espère en tout cas, et je cherche.
Est-ce que cette sensation-là, cette reconfiguration que vous sentez de votre corps, de votre chair, de vos muscles, est-ce que c'est une chose que vous avez déjà ressentie durant vos années de cycliste avant ? Est-ce qu'il a véritablement fallu cette chute pour couper net l'envie, comme vous le dites, de vous présenter comme cycliste et de vous définir avant tout?
Pour l'instant, je suis pas encore trop caduque, comme dirait Rousseau. Et je non, mon corps depuis lors, il a bien récupéré. Je fais de la gym, je fais de la muscu, je fais du vélo, je m'organise quoi pour. Non, ce qui a changé, c'est plutôt du côté du... Je sais pas quoi, on est toujours embarrassé avec ces mots-là, mais c'est plutôt du côté de l'âme ou de l'identité que j'ai senti qu'il fallait passer à autre chose. C'est-à-dire le coureur cycliste, c'est plus moi. Je ne suis plus d'abord un coureur cycliste, en tout cas. Et alors, je cherche quoi être ou qui être, mais en tout cas, je suis aujourd'hui un mec de 57 ans, encore à 60 ans dans 3 ans, 70-10 ans plus tard, et tout ça m'effraie pas mal, et je cherche une façon de l'assumer et d'en être heureux. J'ai dit que j'avais jamais trouvé de vocation, je me suis senti assez souvent mal à ma place. J'ai mis longtemps à me sentir à peu près normal et à peu près adulte. Ouais, c'est à supposer qu'on ne le soit jamais. Hein. Mais en gros, quand même, plus le temps passe, et mieux je me sens. Plus je me sens heureux, quoi, pour le dire un peu naïvement. Même si, bon, tout va pas de soi. Mais je crois qu'il faut que je continue à progresser sur ce chemin-là, quel que soit l'état de mon corps. Et l'état de mon corps, il va aller, objectivement parlant, se dégradant, c'est sûr. Mais pas moi.
Mais il y a une chose quand même qui ressort quand on arrive au bout du livre, même au fil des pages, c'est que malgré cette dégradation-là, il y a une forme de nostalgie quand on vous lit sur cette perte de ce que vous avez été, de ce que vous pourriez continuer à être s'il n'était pas devenu ces blessures et ces chutes-là. Mais il y a aussi énormément de joie et de bonheur qui se dégage au fil des pages. C'est un peu ce que vous concluez de cette conversion-là. C'est cette nouvelle façon que vous avez de pouvoir vous sentir vivant. Cette joie, justement, est-ce que vous ne pouvez aller la puiser que dans l'envers des pertes que vous venez d'évoquer ? Est-ce qu'il a fallu, là aussi, cette chute-là pour vous rendre compte que il y avait un... est-ce que ce bonheur-là que vous décrivez, il a pu exister avant cette chute-là ? On espère, mais...
Ce qui commençait déjà à exister et que, comment dire, que ce petit accident a accéléré, c'est l'inquiétude. L'inquiétude de vieillir et puis au bout, l'angoisse et la peur de, la peur de mourir. Enfin, bon. Non, je crois faut dire, mon corps, il est encore une fois, il est pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Ce qui a changé, c'est vraiment mon rapport à l'existence. Et je me dis, enfin, comment dire ça ? C'est pas très facile. C'est peut-être une façon de me persuader, parce qu'encore une fois, je pense que, comme tout le monde, plus ou moins, c'est l'angoisse qui est première. Mais je suis assez convaincu qu'il y a moyen d'habiter bien son âge. Et notamment, il y a des choses évidentes qui rendent plus heureux quand on vieillit. À commencer, je crois, ou en tout cas, par exemple, je crois qu'on se débarrasse d'un certain fardeau narcissique. Voilà, on se dit que... Je vois un autocollant ici, baise les gens. On se dit même qu'il faudra renoncer ou renoncer, j'espère que non, mais transformer sa vie amoureuse, qu'il faudra, comment dire, que, enfin, qu'on va être, je ne sais pas quoi, moins séduisant, qu'on va changer de visage, qu'on va devenir un vieux, quoi. Et néanmoins, il faut se préparer à ça, et j'espère bien non seulement rester digne, c'est-à-dire rester digne, et cette dignité, elle ne peut exister que si on est heureux de vivre et content de soi, d'une certaine manière.
Alors justement, le livre Olivier Alambon, il se termine sur une scène, celle de la conversion de saint Paul, inspirée par les tableaux du Caravage, dont il existe deux versions. C'est la deuxième version qui est représentée en couverture du livre. Un corps d'homme raconte à sa manière une conversion qui, à l'inverse de la révélation divine, est dénuée du choc violent de cette révélation. On est plutôt sur une conversion lente et progressive vers ce que vous appelez cette zone blanche de l'existence, dont vous ressortez finalement apaisé. Et cette fin du livre sur une description d'une révélation de cette scène-là sacrée, et par rapport à tout ce qu'on a pu se dire ici, j'ai eu envie de vous interroger sur la notion de sacré aussi, dans ce que vous pouvez écrire. Est-ce que c'est une dimension qui est advenue uniquement en écrivant ce livre-là ? Est-ce qu'il y avait une part de ça avant dans ce que vous pouviez raconter du vélo et de l'effort ?
Alors, le sacré, je ne sais pas, mais il y a sûrement quelque chose qui m'intéresse un peu du côté de la mystique de l'effort. C'est-à-dire que je me suis souvent amusé aussi à pointer les différences entre un effort comme ça, l'effort du cycliste qui est endurant au sens d'endurer, notamment la douleur, etc. Je trouve se prête assez bien à une distinction entre une attitude un peu catholique qui consisterait à viser une forme de transcendance dans le dépassement, et une attitude plus pragmatique, entre guillemets, plus protestante, plus capitaliste, qui consiste à gérer son énergie plutôt qu'à se dépasser, à viser une forme de transcendance. Donc oui, je pense qu'il y a un rapport au sacré, je ne sais pas, mais à la mystique sans doute. Ouais.
Ce vers quoi je fais signe ne s'articule plus à cette façon agitée d'être en vie. Je n'aspire qu'à suer gentiment, à me laisser porter et à n'imposer à mon corps en guise d'effort que la pression d'une caresse ici et là un peu appuyée. C'est en ceci que j'ai vieilli, que j'ai mué. Au fond, le seuil auquel je commence à m'éprouver, à me sentir exister, s'est considérablement abaissé. Et comment y voir autre chose qu'un progrès, qu'un bonheur ? Cet abaissement n'est pas un affaissement et il n'a rien à voir avec la fatigue. C'est une élévation de la sensibilité. L'étoffe de mon existence est plus fine, plus souple. Elle enregistre des brises plus douces, là où la toile grossière qu'engluait mes jeunes humeurs ne restituait que les tempêtes. Je me fais sismographe. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie encore une fois. Ouais.
Je rappelle votre dernier livre publié aux éditions Premier Parallèle, Un corps d'homme. Et je tiens également à remercier chaleureusement Théo Potier pour son aide précieuse à la réalisation de cette première émission. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mardi 5 novembre, même heure, même antenne. Bonne soirée à tous.